Nous vous proposons une nouvelle édition, pas comme les autres, de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom, puisque nous sommes en direct de l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel, notre partenaire pour l'occasion. Nous avons l'immense plaisir ce soir de recevoir Shmuel Trigano, qui nous parle de son dernier essai, Le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme, qui vient de paraître aux éditions Hermann. Bonsoir Shmuel Trigano.
Bonsoir, merci de me recevoir.
C'est un plaisir. Alors l'émission débute toujours par quelques mots de présentation de notre invité. Et pour vous présenter, il faut nécessairement résumer votre biographie. On peut dire, Shmuel Trigano, que vous êtes professeur émérite de sociologie et de philosophie. Vous êtes lauréat de nombreux prix, dont celui de la Fondation du judaïsme français et des impertinents du Figaro. Vous êtes le fondateur de la revue Pardès et de l'Université populaire du judaïsme, mais aussi le fondateur du Collège des études juives de l'Alliance israélite universelle et le président fondateur de l'Observatoire du monde juif, du bulletin de l'Observatoire du monde juif et de la revue Controverse. Vous êtes aussi et surtout l'auteur d'une œuvre riche et originale, dont, pour n'en citer qu'un seul, Le récit de la disparue, essai sur l'identité juive, qui est apparu chez Gallimard en 1977. Et votre actualité, c'est la parution du deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme, aux éditions Hermann. Un essai qui s'inscrit dans une trilogie, avec l'hébreu comme philosophie vers une nouvelle pensée, paru en 2014, et l'odyssée de l'être métaphysique hébraïque, paru en 2020. Vous avez initié le projet de définir une philosophie hébraïque, entre guillemets. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, la philosophie hébraïque viserait à ouvrir une autre voie que la philosophie juive, fondée par Philon d'Alexandrie et élevée à un stade inégalé par Maïmonide. Si la philosophie juive tente de rendre compte du message hébraïque à l'aune du logos grec, la philosophie hébraïque chercherait d'abord un accord avec elle-même en tant qu'elle embrasse l'univers. Bien sûr, vous pourrez réagir à tous ces propos D'accord. dans un instant. En ce sens, le texte hébraïque de la Torah recèle un monde, un continent, avant même qu'il ne se décline en idées ou en dogmes. Votre actualité, qui nous vaut votre présence à nos côtés ce soir, c'est donc la parution du deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme, qui s'inscrit dans cette vaste entreprise de rendre au texte et à la pensée issue de la Torah leur créativité intellectuelle. Alors tout d'abord, si vous voulez réagir à ces propos et nous dire s'il est possible de nous expliquer comment a germé l'idée de ce concept de philosophie hébraïque.
Alors, il a germé dans le cadre d'une recherche que j'avais effectuée pendant une période à l'Institut Herzl à Jérusalem sur la pensée des textes sacrés. C'était un cadre dans lequel participaient également des représentants du monde chrétien américain qui contribuaient aussi à cette recherche collective de retour aux textes quant à leur sens, beaucoup plus que quant à leur théologie. Et donc, ça a commencé comme une recherche sur la langue hébraïque dans le texte biblique, mais également dans la pensée du judaïsme. Cette langue n'est pas un simple instrument au service d'idées. Je voudrais revenir plutôt à la démarche de Benveniste, je ne sais pas si c'est connu de tout le monde, un grand linguiste qui avait développé l'étude de la civilisation indo-européenne à travers une multitude de langues, depuis l'Inde jusqu'à la Grande-Bretagne, et qui montrait que la langue porte une cité, un univers, une pensée. Et il m'a semblé que la chose n'avait pas été faite véritablement concernant l'hébreu, que nous tous, dans nos recherches, dans nos écritures, etc., nous sollicitons beaucoup pour entendre ce qu'il recèle comme secret, comme connaissance à acquérir encore. Donc en fait, cette recherche sur l'hébreu, qui est pour moi très importante, mon premier livre que vous avez bien voulu citer, essaye de penser l'hébreu en français, en fait, le récit de la disparue. C'est plein d'hébreu, d'étymologie, etc. Mais pour faire entendre justement l'entente du secret de l'hébreu dans d'autres langues est quelque chose de très important. Et en règle générale, dans les traductions, on va vite au sens, à la construction sensée d'une pensée, mais on n'est pas à l'écoute de ce que l'hébreu envoie comme... Alors, mon premier livre, c'est un exemple de cela, si vous voulez. Il est consacré à une seule idée, l'idée de Rachamim, la miséricorde. Mais c'est plus que la miséricorde en hébreu, dans la mesure où le Rachamim, c'est le rapport du Rechem, l'utérus, la matrice, au Obar, à l'embryon. Et donc, en fait, ce rapport qui définit un des attributs les plus importants de Dieu et qui nous dit dans la tradition du Talmud « Kol Israël Rachmanim Hem » tous les juifs sont des Rachmanim, des gens d'utérus, si vous permettez le scandale sur ce plan-là, des gens de matrice. Et donc en fait, mon livre, ce premier livre s'était organisé autour de ce thème fondateur que le terme de miséricorde ne traduit pas du tout. En tout cas, l'entente de miséricorde en français, même en hébreu moderne, rachmanut alav, on plaint quelqu'un. Or, le rachamim, la miséricorde, c'est tout à fait le contraire. C'est un sentiment océanique qui porte tout un univers. Et donc, alors, j'ai dans le premier livre sur l'hébreu comme philosophie, j'ai essayé de montrer quelques sentiers, quelques perspectives que j'ai acquises à travers les âges, en quelque sorte. Et ça supposait une repensée fondamentale de la pensée juive. Vous allez comprendre très vite. J'avais écrit dans le temps un livre qui s'appelle « La demeure oubliée, genèse religieuse du politique ». Et ce livre, en fait, avait pour but de démontrer que la modernité juive n'était pas plaquée du dehors, mais qu'elle avait émané du dedans de la société traditionnelle. Et j'avais notamment analysé, d'un point de vue anthropologique et pas philosophique, la querelle maïmonidienne. Car autour des idées de Maïmonide s'est déroulée une très violente querelle qui va de l'Irak jusqu'au Languedoc, avec des dénonciations à l'Église, etc., etc. Maïmonide, en fait, a une idée géniale dans le Guide des égarés. Il invente une façon de parler de Dieu sans rien dire de lui. Parce que si l'on dit quelque chose de Dieu, alors il est sujet à changement. Donc l'attribut divin, Dieu est bon, par exemple. Si je dis Dieu est bon, ça prête le dos à l'idée qu'il pourrait ne pas l'être. D'accord ? Alors je dirais plutôt, Dieu n'est pas sans être bon. Et donc c'est une façon de contourner l'affirmation pour dire quelque chose. Donc c'est la théorie des attributs négatifs de Maïmonide. Et en fait, cette querelle autour de cette dimension philosophique était une querelle qui avait une portée de société, de civilisation. Ce qui était en jeu, c'est de savoir si le judaïsme est une réalité en soi ou simplement secondaire. Est-ce que les commandements du judaïsme ont une historicité ? Sont vécus dans l'histoire ou pas ? Est-ce que ce sont des symboles creux ou plus que ça ? Voyez. Donc, les philosophes ont eu tendance à penser que c'était des symboles creux. Et les kabbalistes se sont violemment opposés à cette idée. Bon, donc il y a une controverse qui dure deux siècles. Et dans cette controverse, vous avez un Spinoza qui apparaît, qui est en fait l'héritier ingrat de Maïmonide, à ce niveau-là, qui est le rapport à la modernité européenne qui se joue à partir de cette époque-là. Et donc, en fait, j'ai voulu montrer que c'était, en somme, aussi un travail sur la philosophie juive. La philosophie juive, elle a des dogmes à défendre. Elle doit se défendre face à la Grèce, à la philosophie grecque. Elle doit prouver quelque chose à l'aune des critères de la Grèce. Et donc, en fait, elle est prédéterminée dans cette façon-là. Et donc, la philosophie hébraïque, ce serait non pas l'ennemi de la philosophie juive, certainement pas, mais une autre école qui se mettrait à l'écoute du texte biblique, du concept biblique. Bien sûr, l'interprétation du judaïsme est la véritable clé, mais avant même cette interprétation, avant même qu'il n'y ait des dogmes, il y a une pensée qui est là, qui est beaucoup plus ouverte, qui a encore une puissance créatrice, si vous voulez. Bon, pour Maïmonide, finalement, les attributs de Dieu, c'est des métaphores, c'est de la littérature. La prophétie, c'est de la littérature, etc. Donc, on ne peut pas le prendre véritablement au sérieux du concept. Et par conséquent, on n'en tire pas la pensée qu'on pourrait en tirer. Et donc, la philosophie hébraïque, au contraire, tire sa conceptualisation de la langue hébraïque telle que le texte biblique nous la délivre. Parce que c'est évidemment, c'est pas l'hébreu des Phéniciens, mais l'hébreu, et c'est pas l'hébreu des Israéliens, parce qu'en fait, pour certains linguistes, l'israélien est une nouvelle langue. C'est l'hébreu dans une structure européenne, grammaticale européenne, si vous voulez. Heureusement, c'est une langue moderne qui peut rendre compte de la modernité, mais qui a encore quelque chose à attendre de l'hébreu qui est enfoui en elle. Je citais dans ce livre un échange de lettres entre Gershon Scholem et Franz Rosenzweig, où Scholem se rend compte que sous l'hébreu israélien, il y a un volcan qui un jour va exploser. Parce qu'en fait, tous les concepts qui ont été marqués par la religion, la spiritualité, sont réinterprétés dans un sens profane. Mais le jour où les concepts originaux vont éclater, ce sera un chaos, un bouleversement, et il écrit « Nous n'avons pas élevé nos enfants pour qu'ils puissent gérer cette situation-là. » Bon, mais c'est très intéressant, si vous voulez. C'est une parole très juste et très profonde. Je n'ai pas du tout la terreur de Gershom Scholem. Au contraire, je pense que c'est une chance, parce qu'il y a encore une créativité qui est en puissance dans le monde juif. Elle ne s'est pas exprimée, mais elle est encore en puissance. Et c'est elle qu'il faut justement réveiller, parce qu'il y a eu le réveil israélien, la création d'Israël, la résurgence de la langue hébraïque, etc. Donc en fait, cette philosophie hébraïque pourrait être une perspective qui se développerait. Alors, elle sort de l'ordinaire, elle sort des cadres académiques universitaires, comme toute pensée spéculative, mais elle renouvelle la dimension spéculative et elle pose la question du sens qui n'est plus véritablement posée aujourd'hui dans l'univers des yeshivot, c'est le sens halachique du texte, etc., mais pas le sens dans sa valeur générale. Voilà. Donc, en fait, c'est une pensée peut-être de la postmodernité, d'après la modernité, alors que Maïmonide, c'était la pensée de la modernité rationnelle, on pourrait dire à ce niveau-là. Et enfin, ce livre, le premier livre, si j'ose dire, de philosophie hébraïque, c'est le deuxième livre de cette série de trois, l'Odyssée de l'être, métaphysique hébraïque. J'ai commencé par la métaphysique. Ici, c'est l'esthétique, donc il y a un rapport entre les deux dimensions. La métaphysique hébraïque essaye d'expliquer comment lire le texte. Et alors, la scène de la Genèse est capitale. Le livre de la Genèse est un livre extraordinaire, d'une construction parfaite, contrairement à ce qu'on veut lui faire dire souvent, et on ne sait pas ce qu'on lui fait dire. C'est le cadre fondamental de la pensée hébraïque et du judaïsme et du monothéisme, on pourrait dire. Donc, ce livre insiste sur ce que nous devons comprendre. Par exemple, une question large. Est-ce que Dieu nous parle? Parce que pour parler, il lui faudrait des cordes vocales et des poumons, si on est sérieux. Alors, ma réponse est, il ne nous parle pas, mais nous l'entendons. Nous l'entendons parce qu'en fait, le langage est notre angle de vision, de compréhension du monde. D'accord ? Donc le fait que l'on entende Dieu ne signifie pas que Dieu parle avec des attributs de langage ou qu'il fait un miracle pour faire comme si une voix s'est émanée, etc. Et nous avons dans ce texte, j'étudie toutes sortes de situations problématiques parce qu'en fait, par exemple, les anges, comment se rendre compte de l'existence des anges ? Dans la mesure où on est dans un univers typiquement monothéiste.
Alors, on va en parler justement dans un instant. Vous avez employé le terme de scandaleux. Moi, je dirais peut-être le terme d'audacieux par rapport au titre même du livre avec des oppositions entre deuxième et Dieu et esthétique et monothéiste. Et monothéisme. Et vous l'écrivez d'ailleurs en guise d'avertissement, je vous cite, « L'objectif de cet essai n'est pas de présenter un tour d'horizon érudit sur la question, mais d'aider le lecteur curieux à se mesurer à un enjeu intellectuel essentiel du monothéisme. Pourquoi la croyance en un Dieu unique ne peut-elle pas se dispenser de l'idée d'une instance intermédiaire et intercesseuse entre la finitude et l'infini ?» Est-ce qu'il était nécessaire de poser un avertissement avant de débuter ?
Oui, parce qu'il y a eu un certain nombre d'ouvrages américains, européens, etc., israéliens, sur la figure d'un ange suprême, disons, dans des profils tout à fait différents. Et donc, je ne prétends pas inventer ex nihilo une question, mais la réinvestir intellectuellement. Parce qu'en fait, il faut partir d'un problème essentiel quand on parle du monothéisme. Il est animé, comme je le dis, d'une contradiction fondatrice. Quelle est la contradiction ? D'un côté, une divinité abstraite, absente, qui n'a pas d'image, et de l'autre, le créateur de l'univers. Mais s'il y a création de l'univers, il y a forcément action d'un créateur. Or, s'il y a action d'un créateur, comment rendre compte de ce créateur ? Il est forcément déterminé par le temps, par l'espace, par la mesure, etc. Autant de critères qui sont inadmissibles quand on parle justement de monothéisme. Donc j'ai voulu, quand j'ai parlé tout à l'instant de la question de savoir si Dieu nous parle, c'est exactement cette question. Bien sûr qu'il ne parle pas, mais bien sûr nous l'entendons. Et donc il nous parle sur ce plan-là. Donc c'est ça que... je voulais comprendre d'une autre façon radicalement de Maïmonide que j'ai exposé brièvement. Pour Maïmonide, il ne le dit pas d'ailleurs, s'il avait dit ça aurait été un scandale, Dieu ne nous parle pas, mais le texte, il y a des fioritures littéraires pour nous apprendre que Dieu nous parle. Quand on est très, très perspicace, très observateur, on se rend compte que le texte n'est pas aussi naïf qu'on le croit. Parce qu'il présente toujours des situations dans lesquelles le regard vient du dehors et pas du dedans. D'accord ? Et ça, c'est très original. On a par exemple cette fameuse formule « Dieu parle à Moïse pour dire ». Vaïdaber, les morts, pour dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En général, les Bibles suppriment cette nuance, mais elle est très importante. Dieu parle à Moïse pour dire, mais c'est Moïse qui nous dit ce que Dieu lui dit. Et donc il y a un relais, il y a une cassure, si vous voulez, dans les relais de la voix et de la communication, justement parce qu'on ne peut pas imaginer que Dieu parle à Moïse dans le sens concret, facile de ce terme. Moïse a rencontré Dieu au coin d'un bois ou d'un désert, etc. Donc c'est pas du tout dans cette... Il faut prendre au sérieux, il faut prendre absolument au sérieux le texte biblique, mais comprendre ce qu'il dit. C'est pourquoi j'ai pensé, le sous-titre, je me suis beaucoup posé la question, l'esthétique du monothéisme, parce que c'est aussi scandaleux de dire qu'il y a un deuxième Dieu,
oui.
D'accord ? Mais c'est l'esthétique par rapport à la métaphysique. La métaphysique, c'est ce que l'on contemple, l'esthétique, c'est ce que l'on ressent. Et dans le ressenti, c'est là où nous entendons Dieu. C'est-à-dire que le ressenti n'est pas moins vrai que la divinité sur ce plan-là. Et là, je reviens à la formule biblique. L'homme est créé à son image, à sa ressemblance. Bon, c'est une très mauvaise traduction. Okay. La ressemblance à quoi ? La ressemblance à l'image, pas la ressemblance à Dieu. Lorsque Dieu nous contemple, il voit d'abord cette image, Tselem, qui n'est pas une image, avant de voir la condition humaine. Lorsque l'homme contemple Dieu, il voit d'abord la ressemblance, l'admout, et ensuite le Tselem, et ensuite il imagine la dimension divine. Je voulais employer le terme d'imaginaire, mais j'ai pensé que on pouvait retrouver justement toutes les grandes institutions intellectuelles de la philosophie. La philosophie grecque, il y a une esthétique, une politique, une métaphysique, etc., pour reconstruire en quelque sorte le paysage conceptuel d'Israël et du judaïsme.
Alors, qui serait ce deuxième Dieu ? Ce serait une sorte d'intermédiaire, d'entremetteur entre la divinité abstraite et les êtres humains. Et vous donnez plusieurs exemples de ce deuxième Dieu. Et on se pose la question, finalement, est-ce qu'il est angélique ou maléfique ?
Il est toujours angélique, hein, parce que l'ange suprême, il est au service de la divinité.
Même quand il s'agit de Métatron ?
Oui, parce qu'en fait, c'est une des figures... Alors, dans le livre, j'étudie une série de figures qui sont des figures de la médiation. Comme on ne peut pas imaginer que le Dieu infini crée le monde sensible, l'esprit humain, l'esprit des monothéistes, s'invente ou imagine un personnage médiateur. Alors, le personnage médiateur, il peut être angélique, mais il peut être aussi, par exemple, le rabbi de Lubavitch, il a quelque chose de divin, puisqu'on s'adresse à lui pour s'adresser à Dieu. Et ainsi de suite, de toutes sortes de personnages religieux. Et donc, c'est cette médiation humaine qui m'a intéressé, parce qu'en fait, quelle est la meilleure image pour parler de Dieu ? C'est l'homme, puisqu'il est créé à son image. Donc, en fait... sur ce plan-là, ce qu'on appelle la religion populaire a besoin de médiateurs pour se rapprocher de la divinité. Ça ne veut pas dire que c'est une pure et simple invention. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure comment, en fait, l'image la plus adéquate à la divinité pour la représenter, si c'était possible, ce serait l'homme. Puisqu'il est créé à son image. Et donc, alors, je rajouterai quelque chose aussi d'important qui concerne aussi la dimension du Shabbat. Shabbat vaï nafash. Alors, contrairement à ce que vous aurez pu penser, Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il ne se fatigue pas, ça n'a aucun sens sur ce plan-là. Par contre, vaï nafash, il faut le lire dans son sens profond, qui est le sens de la nefesh. La nefesh, donc l'âme vivante, c'est la personne humaine, en fait, en français. La personne. Donc, vaï nafash, Dieu s'est fait personne en se retirant pour faire place à la condition humaine, à l'humanité. Donc, il a donné son nom, il est nommable, même si le nom, le tétragramme est de l'ordre de l'innommable, mais il a donc cette interface vers l'humanité qui reflète le profil de l'homme. Et donc, c'est tout à fait inéluctable que dans la croyance profonde, on pourrait dire populaire, parce que tout le monde n'est pas un philosophe ou un savant, on a tendance à humaniser cette dimension-là. Dieu me parle, Dieu, etc. Donc, alors, il n'y a pas un deuxième Dieu, mais il y a un deuxième Dieu, si vous voulez. C'est-à-dire que les deux propositions sont vraies, parce qu'en fait, ce deuxième Dieu est un médiateur. Ça peut être un prophète. Alors, il y a des profils très intéressants. Nous ne savons pas, par exemple, quel est le lieu de sépulture de Moïse. Nous avons aussi des cas dans la Bible où Hanor est élevé au ciel. Dieu l'a emporté sans qu'il meure. Comment expliquer ça sur le plan rationnel parce qu'il y a une rationalité très, très, très structurée dans la pensée du monothéisme. Donc voilà, donc c'est là que, dans le livre précédent, j'avais étudié la procédure de la communication entre Dieu et les hommes, notamment comprendre que, en fait, c'est là le début dont j'aurais dû parler au départ. La divinité se nomme du nom de l'être. Hachem, c'est un mot forgé sur le radical du verbe être. Je ne rentre pas dans le détail de cette explication, mais ça a des conséquences gigantesques. Si Dieu est l'être, qui suis-je? Où suis-je? Où est le monde? Où est la place du monde? Puisque l'être est censé englober toute chose. Mais là, nous avons un aspect typique de la pensée juive, c'est que l'ontologie, c'est-à-dire la science de l'être, elle est bifocale. Regardez déjà les deux noms divins dans les deux premiers chapitres de la Genèse. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un dieu qu'on a rajouté, etc. C'est une logique profonde. De même, Dieu donne naissance à un second être qui est l'homme. Et donc, et puis l'homme lui-même donne naissance à un second être qui est la femme. Et puis l'humanité donne naissance à un second être qui est Israël. Donc il y a le peuple d'Israël donne naissance à un second être qui est la tribu lévitique, qui n'appartient à aucun recensement du peuple d'Israël. Donc en fait, il y a là une structure de l'univers qui explique cette rationalisation, le besoin d'une rationalisation que je viens de vous exposer.
Alors justement, quand vous écrivez ce livre, Le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme, comment vous vous placez ? Comme philosophe qui pense, comme exégèse qui analyse les textes de l'héritage du judaïsme, et est-ce que finalement il n'y a pas une petite contradiction avec le croyant, celui qui a la foi ?
Bon, d'abord je pense comme un être humain sur la route de l'existence. Ce n'est pas un travail de scribe. Tout ce que j'ai pu écrire vient une expérience existentielle fondamentale. Et donc, en fait, il y a des moments où quelque chose se présente et qu'on écrit. Donc, philosophe, je ne sais pas. J'ai enseigné la sociologie, mais je ne suis pas sûr d'être sociologue. C'est la sociologie telle que je l'ai comprise. Je ne suis pas un philosophe professionnel. J'ai fait la classe de philo au lycée, évidemment, mais pas un philosophe. Non, c'est la question de l'existence qui se pose à moi et qui me conduit. Par contre, j'ai pu dire un jour dans une conférence à Jérusalem, donc devant des Israéliens, On me demande à qui je m'adresse. Ben, j'ai répondu, j'ai osé penser. Or, on n'ose plus penser dans le judaïsme aujourd'hui. Tout est limite, tout est fagoté. Il faut retrouver, si le peuple d'Israël revit sur la terre d'Israël, sa pensée doit éclore à nouveau. La pensée, tout n'est pas dit du judaïsme. Le point final n'est pas posé. Et donc, nous devons tenter de nous situer à hauteur de l'exigence qui découle de cette résurgence. Sinon, c'est un semblant. Et donc là, c'est dans ce sens-là, si vous voulez, de défricher des voies. De même, il est clair que le judaïsme aujourd'hui manque d'une grande pensée politique. C'est lamentable, il n'est pas à la hauteur du défi politique d'un État souverain. C'est une expérience qui n'a jamais existé depuis 25 siècles. Et donc, en fait, que le rabbinat a manqué parce qu'il est né dans, et s'est développé dans l'exil. Or, dès le moment où il y a résurgence de la souveraineté, il y a nécessairement un travail intellectuel, doctrinal à accomplir. On attend le prochain Sanhédrin du judaïsme qui mettra un terme au Sanhédrin napoléonien, si j'ose dire. Parce que c'est une perspective totalement différente. Donc, dans ce sens-là, c'est audacieux. J'espère qu'on s'en souviendra. Mais bon, l'essentiel, c'est de vivre l'expérience.
Nous sommes toujours en direct de l'Institut Elie Wiesel, où est enregistrée cette semaine, du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle actuelle de Radio Shalom, en compagnie du professeur Shmuel Trigano, qui nous parle de son dernier essai, « Le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme », qui vient de paraître aux éditions Hermann. Un essai réussi, quand on ferme le livre, eh bien on se pose un certain nombre de questions. Alors personnellement, j'ai au moins deux questions à vous poser. Vous avez beaucoup parlé de la Genèse. Et dans la Genèse, avant l'apparition du tétragramme, Dieu est appelé Elohim. Elohim, avec une marque du pluriel, alors qui pourrait signifier à la fois le Dieu des dieux, mais pourquoi pas, après vous avoir lu, on pourrait penser que ça pourrait être Dieu, Eloah au singulier, et un ange. Est-ce que ça pourrait être ça?
Alors, je réponds non.
Non.
Parce qu'il est clair que ce que j'ai écrit, cette analyse, ne suppose pas qu'il y a deux dieux. L'expression « le deuxième dieu » est une expression du philosophe d'Alexandrie à l'époque chrétienne, les débuts du christianisme, qui est Philon d'Alexandrie. Il l'emploie une seule fois, « deuteros theos ». C'est très osé parce que pour lui aussi, c'est un scandale. Il fait la défense et l'illustration du judaïsme face à la Grèce et face à la philosophie grecque. Non, je ne dirais pas ça. Il y a un jeu dans les deux premiers chapitres. Le premier chapitre de la Genèse est sous le signe d'Elohim. Et donc, en fait, c'est le Dieu qui crée le cosmos. Le cosmos dans lequel, en fait, nous sommes perdus, nous ne sommes absolument rien. Alors que Hachem Elohim, dans le deuxième paragraphe, et il y a une deuxième création de l'homme, c'est le Dieu pour l'humanité, de l'humanité. Les deux dimensions, dans les noms de Dieu, il y a toute une doctrine des deux aspects de la divinité par rapport à sa réalité. Non, je ne dirais pas que c'est Dieu et son ange.
Donc Elohim n'est pas un pluriel pour vous?
Ça semble être un pluriel, mais c'est un terme erratique. Il n'existe pas ailleurs. Alors, certains imaginent que c'est toutes les forces du cosmos pensées dans leur unité. Pourquoi pas? Mais ça ne me pose pas de problème sur ce plan-là. Par contre, El, Elim, c'est la façon de désigner la divinité dans le monde sémitique. Donc, comme God, Goth, en indo-européen, etc. Donc, ça aussi, c'est une dimension de la réalité. Le plus important, c'est la construction que le texte biblique fait avec ces noms divins qui ne sont pas insignifiants. Ils portent avec eux une dimension. Voyez. Donc, par exemple, le premier chapitre de la Genèse, c'est le chapitre cosmique, dans la mesure où il y a une sorte d'anonymat, il n'est pas habité par l'homme. Et le deuxième chapitre, c'est cette phase-là.
Alors justement, j'ai une autre question par rapport à ça. Vous l'avez abordé aussi il y a un instant dans la Genèse. Eh bien, l'être humain, l'homme, avec un grand H, est créé à l'image de Dieu, masculin et féminin, il les créa. Oui. Est-ce que cet être humain, cet homme avec un grand H, pourrait être le deuxième Dieu ?
Alors, il est certain qu'il y a une réplication entre la création de l'homme, à travers laquelle l'être crée un second être, et la réplication qu'il y a dans la création du couple humain, de la dame. De la dame sort une femme, Ève, et Monsieur Adam. Parce qu'il ne faut pas confondre, il y a la dame,
et
l'humain.
Le ish.
Pardon ?
Et le ish qui est différent de
oui,
la dame.
Oui, voilà, mais bon, ish, c'est aussi un autre problème. Ah. Donc il y a une dimension double. Et c'est très important de voir, là, sur le plan de l'anthropologie du judaïsme, beaucoup plus large, il y a une double dimension de la condition d'Israël. Cette double dimension s'est illustrée à travers l'histoire, à travers des drames, la création des deux royaumes, par exemple, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Mais avant cette création, il y a les tribus de Léa et les tribus de Rachel, les deux femmes de Jacob. Et donc, on trouve ce clivage, il est structurel, on le retrouve dans beaucoup de dimensions du judaïsme. Il rappelle en fait le clivage de la divinité créatrice qui s'est retirée pour faire place à l'homme. En fait, c'est ça l'idée de base. De même, la création d'Ève, c'est de la même façon la dame, l'humain, se retire pour faire place au surgissement de notre être qui est Chava. Voyez. Et donc, c'est le modèle général de toute la métaphysique hébraïque. Et j'ai esquissé tout à l'heure l'idée que même l'élection d'Israël, en fait, répète cette dimension-là pour l'inscrire dans l'humanité collective et pas dans la singularité de l'homme et de la femme. Voilà. Mais le grand ange, vous le rencontrez très souvent. Là, j'essaie de parcourir tous les épisodes bibliques problématiques. Jacob s'est battu avec un ange, mais qui est-il ? Quand devient-il ? Il lui donne son nom. Il est nommé Ish, un individu. Mais ça reste mystérieux sur ce plan-là. Et donc, dans l'Exode, il y a un passage très lourd où, lassé des incartades d'Israël, Dieu dit « Je ne marcherai plus devant Israël ». Et Moïse prend peur et dit « Détruis-nous plutôt que tu ne marches avec nous » parce que Dieu le menace d'envoyer son ange, son nom, le nom divin est inscrit dans cet ange qui sera impitoyable, qui ne vous pardonnera pas, etc., etc. Mais qui est cet ange-là ? C'est le second. C'est une des premières figures du second, et Métatron, Hanor, etc., etc. Et donc, c'est un passage énigmatique sur ce plan-là, puisqu'en fait, c'est la divinité elle-même qui institue un ange qui la remplace, dans laquelle le nom divin est inscrit. Bon, mais voilà, donc en fait...
Donc c'est vraiment, c'est très audacieux. Et d'ailleurs, vous allez plus loin que l'héritage juif, puisque, si j'ai bien compris, le deuxième Dieu pourrait être, dans la tradition chrétienne, incarné par Jésus, comme Mahomet dans la tradition musulmane.
Alors, c'est pas pourrait être, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, parce qu'il est clair que le christianisme comme le judaïsme sortent des entrailles, le christianisme comme l'islam sortent des entrailles de l'Israël éternel. C'est absolument évident historiquement, sociologiquement, thématiquement, etc. Seulement, il y a ce que j'ai appelé la bifurcation monothéiste. C'est-à-dire que ce qui est resté en puissance dans le judaïsme, qui s'est exprimé à travers toutes sortes de figures, là, devient réalité. Et la figure de l'homme, elle va occuper le lieu du retrait divin de la création. La figure de l'homme, c'est, dans le cas du christianisme, c'est Jésus. Jésus qui va, en quelque sorte, matérialiser le retrait divin grâce auquel l'humanité est promue. Et donc, ici, on n'est plus dans le judaïsme. On n'est plus du tout dans le judaïsme. Mais c'est un dérapage qui était en puissance. Et donc, comme vous le savez, l'apôtre Paul est un pharisien, était un juif pharisien. Donc, en fait, j'essaye de comprendre dans cette dimension-là, jamais dans le judaïsme, on ne matérialiserait Dieu. Parce que tout ce que j'ai tenté d'expliquer, c'est pour montrer comment, en fait, Dieu est là sans être là. Et comment, à quoi ça correspond, justement, dans la structure théologique. L'humain voit le monde à la lumière de son œil. Et son œil, il entend des voix, il regarde, etc. Il a une difficulté à faire autre chose, à voir autre chose. Donc, mais là, ce que les Juifs n'ont pas fait, les chrétiens l'ont fait.
Et les musulmans avec Mahomet ?
Et les musulmans ont quelque chose de tout à fait étonnant dans le Coran. Il est toujours question de Dieu et son prophète. C'est très bizarre comme formule. Est-ce que le prophète, là, s'inscrit dans la dimension de Dieu ? Parce qu'en fait, il est divin dans la conception islamique. C'est l'homme parfait, absolument parfait, qu'il faut imiter dans ses moindres gestes, etc. Et là, évidemment, même s'il y a de la pensée sur Métatron, l'ange intermédiaire, etc., jamais le judaïsme n'a été jusque-là. Moïse est un humble serviteur, et c'est très important. Et Métatron, qui, je ne vais pas rentrer dans les récits agadiques, etc., il a été vu par un rabbin du Talmud qui est devenu fou, qui a perdu la foi, parce qu'il était assis. Et c'était en fait le chroniqueur des actes de l'humanité. Et donc, or, s'il est assis, c'est qu'il a un trône. S'il a un trône, c'est un deuxième dieu. Et justement, pour casser les anges du service l'ont battu pour montrer à Elisha ben Abouya, justement, qui a perdu la foi en voyant ce spectacle spirituel, qu'il n'était pas un dieu. Cette question, vous voyez, elle est traitée comme ça dans le Talmud, sous la forme d'une Haggadah. Quatre rabbins sont rentrés dans le verger mystique, la contemplation mystique, kabbalistique, etc. Et alors, il leur arrive une catastrophe, l'un devient fou, l'autre perd la foi, etc. Et un seul sort indemne sur le plan de son âme. Et donc, Elisha ben Abouya perd la foi. Et puis, il reste un maître de Talmud en déshérence, en quelque sorte. Bon, il y a toute une histoire, un récit. C'est la façon talmudique de parler de ce dont je parle.
Alors, justement, d'autres intellectuels, d'autres penseurs ont réfléchi à cette notion de monothéisme. Alors, ce n'est pas une question facile, mais finalement, qu'est-ce que vous apportez de différent dans cette appréhension de la définition ?
Par rapport à quoi ?
À la question du monothéisme.
La définition que j'apporterai.
Oui, de différente par rapport, dans ce livre, par rapport à ce qui a déjà été fait concernant le monothéisme.
Ah oui, il y a une littérature gigantesque.
Oui.
Ben, c'est un réinvestissement à partir d'un angle d'approche très limité que je fais, et surtout je ne m'encombre pas des doctrines, des théories, etc., des ouvrages déjà parus, mais de l'exercice de la réflexion. à partir du texte biblique que je connais, que j'ai étudié, etc. Donc c'est l'exercice de la réflexion, mais pas autre chose. Donc ce que ça apporte, peut-être le fait de poser à nouveau frais les éléments de cette question, en tout cas du point de vue du judaïsme, c'est ça qui m'importe sur ce plan-là. À l'occasion, j'ai vu comment ça se déroulait pour les deux autres monothéismes qui sont nés de l'histoire d'Israël. Mais en fait, ça s'inscrit dans l'idée de la métaphysique qui précède. Il faut lire les deux livres en même temps. Voilà, parce que les deux vont de concert, justement, pour ne pas se méprendre sur ce que ce livre pourrait sembler dire. Voilà. Donc, mais j'ai voulu aussi montrer qu'il y a une dimension imaginaire, une dimension esthétique de ce que l'on ressent, des sens, dans cette pensée austère qu'est le monothéisme, et qui de toute façon est une réalité. J'ai cité tout à l'heure le rabbi de Lubavitch, mais il y a Israël lui-même, puisqu'il nous est dit que Dieu résidera en son sein. Donc quand on voit Israël, on voit Dieu. C'est comment comprendre ça? Vous voyez? Donc en fait, je prends au sérieux le texte biblique. Je ne dis pas que ce sont des métaphores littéraires pour exprimer l'indicible, pas du tout, c'est très sérieux. Donc c'est le texte biblique n'est pas un texte, bon, c'est un texte poétique, mais c'est aussi un texte très structuré sur le plan intellectuel à ce niveau-là. Mais évidemment, il faut en comprendre la structuration.
Est-ce que ça vous dérange si je vous dis que vous êtes l'un des derniers brillants représentants de l'école française de pensée juive, donc qui a vu le jour dans les années d'après-guerre et qui réconciliait la pensée juive et le savoir universel? Et est-ce que finalement cet ouvrage audacieux n'en est pas une illustration?
Je vous remercie. Oui, c'est vrai. On peut le penser. Mais c'est vrai que, évidemment, je ne suis pas parmi les premiers de l'école d'Orsay. J'étais jeune. C'est pas mon âge, mais après coup, je me suis reconnu dans cet héritage intellectuel du judaïsme français qui s'est constitué au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui a reçu aussi les juifs d'Algérie, les juifs d'Afrique du Nord, qui ont contribué aussi. Donc, et surtout, je me suis rendu compte de son importance quand j'ai découvert que finalement, elle n'existait qu'en France. Qu'en Israël, on ignorait une telle tournure d'esprit. Aux États-Unis, peut-être sur la côte Est, il y avait eu des tentatives intellectualistes de ce type-là, parmi les communautés juives. Mais en Israël, ça faisait terriblement défaut. Le débat est partagé entre le rabbin d'un côté et de l'autre, le professeur d'université. Or, l'intellectuel n'est pas tout à fait l'un et pas tout à fait l'autre. Ou même ni l'un ni l'autre. Il pose des questions, le rabbin donne des bénédictions. Et donc, si vous voulez, il y a des rôles différents, des autorités différentes. Et je pense que, vraiment, c'est une tournure de pensée qui manque actuellement en Israël. Alors, il y a eu des transmissions. Manitou, que vous connaissez tous, commence à être très connu. Tout en n'étant plus de ce monde, il écrit des livres, puisque ses disciples traduisent, transcrivent ces milliers de cours. Et donc, il y a une communication à ce niveau-là. Évidemment, tout n'est pas parfait, tout n'est pas exceptionnel dans l'école d'Orsay, mais il y a une tournure de pensée qui redonne au judaïsme la dimension du sens, et pas du dogme seulement ou de la vérité, etc.
Il y a une question classique, mais néanmoins difficile, pour terminer ce dialogue. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie au public de l'Institut Elie Wiesel et aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire Le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme, qu'est-ce que vous leur diriez?
Si vous voulez comprendre quelque chose au second être, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit Israël, etc., etc. C'est une entrée directe dans cette problématique.
Merci infiniment, Shmuel Trigano, d'avoir répondu à nos questions. Et on rappelle que votre actualité, c'est la parution du passionnant car interpellant deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme, qui vient de paraître aux éditions Hermann. Bonsoir.
Merci.